Et sur France Inter, il est 19h. Hélène Philippe pour le journal. Bonsoir Hélène.
Bonsoir à tous. C'est la première étape vers une éventuelle révision du procès d'Omar Radad, 30 ans après le meurtre de Ghislaine Marchal. Il crie toujours son innocence. La justice lui donne une nouvelle occasion de se défendre. Commande record pour Airbus et Air France KLM qui achètent 100 appareils pour un prix qui avoisinerait 10 milliards de dollars. Dans l'actualité encore, finalement, ça ira mieux sur les rails ce week-end. Préavis levé. Trop tard toutefois pour empêcher les perturbations demain. Le Royaume-Uni face à la flambée de l'épidémie et des projections affolantes. Et puis on a assisté au sillage de 8 chaînes de dimension exceptionnelle destinées à la flèche de Notre-Dame de Paris. Et au téléphone sonne Fabienne.
Eh bien ce soir, une invitée unique pour vous qui vous permettra de poser toutes les questions que vous souhaitez sur les revalorisations salariales dans les secteurs en tension, sur le SMIC qui n'aura pas de coup de pouce au-delà de l'inflation, sur la réforme de l'assurance chômage, le télétravail qui reste d'actualité avec la montée de la 5e ou 6e vague. Pour échanger avec vous, la ministre du Travail et de l'Emploi, Elisabeth Borne, et vos questions, c'est au 01 45 24 7000.
France Inter.
L'affaire Omar Radad est donc relancée 30 ans après et c'est sans doute l'ultime espoir de l'ancien jardinier d'être innocenté d'un meurtre qui a défrayé la chronique, désigné par l'inscription « Omar m'a tué » écrite du sang de la victime. Il est d'abord condamné à 18 ans de prison avant d'être partiellement gracié. En 2002, une première demande en révision est rejetée, mais depuis, les progrès en matière d'ADN et de nouvelles expertises donnent de l'espoir à la défense. Aurélie Carrive, bonsoir, vous êtes
bonsoir.
En direct du palais de justice de Paris et c'est sur ce point que la justice ordonne aujourd'hui de nouvelles investigations.
Oui, plusieurs traces ADN retrouvées sur des scellés de la scène de crime figuraient déjà dans le dossier en 2002 au moment de la première demande de révision. Mais les magistrats avaient estimé qu'il était impossible de dire si elles avaient été déposées pendant le meurtre de Ghislaine Marchal ou bien plus tard par des enquêteurs ou toute personne qui aurait manipulé les deux portes en question. Aujourd'hui, l'avocate d'Omar Radad met en avant le rapport d'un expert qu'elle a elle-même sollicité. Il s'interroge notamment sur l'un des 4 profils génétiques identifiés qui apparaît à 35 reprises, notamment sur les lettres tracées avec le sang de la victime. Pour l'expert, il est plus probable que cet ADN ait été laissé au moment du crime. La cour de révision a donc estimé nécessaire d'en savoir plus, d'où ces nouvelles investigations qui vont se concentrer uniquement sur ce point. Pour l'avocate d'Omar Radad, Sylvie Novakovic, l'espoir est permis.
En 2008, quand j'ai repris le dossier, tout le monde m'a dit que le dossier était enfoui et clôturé. Eh bien non! Le dossier est réouvert pour le plus grand bonheur d'Omar Radad, car il a toujours clamé son innocence. Les écritures en lettres de sang qui ont fait condamner un innocent vont, je l'espère, lui permettre de rectifier cette erreur judiciaire.
Pour autant, il reste du chemin. Si, sur la base de ce complément d'information, la requête d'Omar Radad est jugée recevable, elle sera examinée sur le fond par la cour de révision qui se prononcera sur la tenue ou non d'un nouveau procès.
La famille de Ghislaine Marchal espère que ces investigations mettent un terme à une affaire douloureuse pour elle. Aurélie Carré, vous étiez en direct du palais de justice pour cette première étape, donc avant un éventuel procès en révision d'Omar Radad. Et c'est donc une commande record qui vient de tomber pour Airbus et Air France. KLM achète 100 Airbus A320 Neo pour équiper les flottes de KLM et Transavia. Bonsoir Philippe Lefebvre.
Bonsoir.
C'est aussi un gros revers pour Boeing, hein, le deuxième en moins de 24 heures d'ailleurs.
Effectivement, après l'annonce par Qantas, la compagnie australienne, de l'achat de 134 appareils, des A320 et des A220, pour renouveler la totalité de sa flotte domestique. Alors là, il y a un vrai symbole parce que Qantas, c'était un des clients historiques de Boeing et là, fini. L'affaire est terminée pour eux et ce sera probablement le cas avec Air France KLM. Et c'est effectivement pour Air France KLM une très très grosse commande. Et puis nouveauté, c'est la première fois que le groupe passe une commande commune pour acheter des avions pour plusieurs compagnies. En l'occurrence, vous l'avez dit, KLM et les deux filiales low cost du groupe, à savoir Transavia Pays-Bas et Transavia France. Alors au total, donc il y a une centaine d'appareils plus 60 options. Pour Transavia spécifiquement, ce qui pourrait vouloir dire qu'à long terme, Transavia qui avait des avions qui étaient exclusivement des 737-800 de chez Boeing, eh bien pourrait voir sa flotte totalement composée d'A320 et d'A320 Neo pour faire des économies. Économie de carburant, bien évidemment, économie de bruit. Ces avions font 40% de bruit en moins qu'un avion classique. Et puis il y aura aussi des économies d'entretien, parce que si on a une flotte entière composée d'un seul avion, bah fatalement, les économies se font ressentir.
Vous nous parlez d'avion, merci Philippe Lefebvre, et vous de train, bonsoir Lauriane Delanoë.
Bonsoir.
Il y a une bonne et une mauvaise nouvelle sur le rail, le préavis de grève est levé pour ce week-end, les négociations ont abouti, mais tardivement, le plan de circulation pour demain étant déjà bouclé, le trafic restera donc perturbé, un TGV sur deux en circulation sur l'axe sud-est, ça reste un moindre mal Lauriane pour les départs en vacances.
Oui, la moitié des trains en circulation demain entre Paris, Lyon, Marseille, jusque sur la Côte d'Azur. Cela concerne 50 000 voyageurs avec leurs trains supprimés. Mais après, ça ira mieux pour le plus gros des départs samedi, dimanche. Trafic quasi normal ce week-end avec la levée des préavis aujourd'hui par Sudrail et la CGT Cheminot. La SNCF Voyageurs dit sa satisfaction. Elle souligne que l'esprit de responsabilité a prévalu. Les syndicats acceptent en effet les dernières propositions. Sur cet axe sud-est, une majoration de la prime de travail pour les conducteurs, plus 600 euros en moyenne, 300 pour les contrôleurs. Mais attention, prévient Julien Trocaz, l'un des secrétaires fédéraux de Sudrail, le mouvement n'est pas terminé, ce sont là des pansements.
Oui, il y a des pansements, il y a des revendications locales qui ont été faites, mais on est loin encore du compte. Donc il va falloir que la direction d'entreprise prenne ça au sérieux. Ce qui prend le pas quand même beaucoup sur cet épisode, on va dire, très chaotique, ça a été quand même le mépris de la direction de l'entreprise qui n'a fait que accentuer la colère sociale. La direction d'entreprise ne doit pas être satisfaite et croire que c'est un mauvais épisode qui est passé.
Sudrail demande donc deux nouvelles réunions avec les directions. Pas de trêve syndicale, nous dit Julien Trocaz. Il rappelle que d'autres grèves sont en cours, par exemple jusqu'à demain soir en Ile-de-France sur les Transiliens et les RER.
Voilà, et pour ce week-end, des départs tout de même un peu plus sereins pour les fêtes de fin d'année.
Ça ne va pas être des fêtes justement très sereines outre-Manche.
Le Royaume-Uni fait face à une vraie flambée de l'épidémie de Covid. Le nombre de cas du variant Omicron double tous les deux jours. Plus de 88 000 contaminations au total aujourd'hui, c'est un record. Jusqu'ici, les mesures de restriction restent assez limitées. Mais bonsoir Richard Place, vous êtes notre bonsoir. Correspondant à Londres. Forcément, les fêtes chez vous n'auront pas la même saveur.
Oui, à commencer par la reine qui annule son traditionnel déjeuner de Noël. Un repas annuel qui permet de réunir la famille élargie. Il devait avoir lieu la semaine prochaine au château de Windsor. C'est normalement l'occasion de réunir tout le monde, des enfants jusqu'aux cousins. Prudence pour Elisabeth II, le repas est donc annulé. Coup dur aussi pour les Britanniques qui prévoyaient de séjourner en France pour aller au ski par exemple ou tout simplement profiter d'une gastronomie digne de ce nom. Paris annonce aujourd'hui qu'ils ne pourront pas venir sans motif impérieux et même s'ils viennent, il faudra observer une période de quarantaine.
Et les projections pour les jours qui viennent, Richard, sont assez alarmantes.
Oui, ce sont deux épidémies en fait qui se cumulent selon le médecin-chef pour l'Angleterre, le professeur Whitty. Il parle du variant Delta, encore majoritaire chez les malades britanniques, à un niveau assez élevé mais qui plafonne. Et arrive maintenant Omicron, dont la flambée est fulgurante dans tout le pays, en particulier à Londres. Et c'est une addition qui fait peur ici. Il y a les cas officiellement enregistrés, vous l'avez dit, plus de 88 000 pour aujourd'hui. Et puis il y a les modélisations de l'Agence de sécurité sanitaire qui parlent de 200 000 nouveaux infectés lundi dernier et qui en annonce 300 à 400 000 par jour en milieu de semaine prochaine. Un rythme effrayant pour les hôpitaux publics. Pour l'heure, ils font face, mais même si les hospitalisations concernent une part faible de ces nouveaux malades, le risque d'être une nouvelle fois débordé existe.
Richard Place en direct de Londres. Et si les Britanniques avaient prévu de venir en France à Noël, on le disait, ils vont devoir oublier car à partir de samedi, il faudra un motif impérieux pour avoir le droit de traverser la Manche dans un sens comme dans l'autre. Autre d'ailleurs mesure décidée par la France aujourd'hui. Le Conseil de défense sanitaire de demain décidera-t-il de nouvelles mesures ? On attend plus de recommandations que de restrictions là encore. De même d'ailleurs, les clubs sportifs ou les entreprises annulent en ce moment les instants festifs de fin d'année. Exemple à la patinoire de Caen où le club a décidé d'annuler l'arbre de Noël, Nolwenn Lejeune.
Le Père Noël avait quasiment déjà garé son traîneau devant la patinoire et chaussé ses patins. Mais le président du club, Ludovic Le Guenec, a dû envoyer un mail à tous les licenciés hier soir, la mort dans l'âme.
Ce genre de décision est toujours difficile à prendre parce que pourquoi on fait cette fête ? C'est pour la cohésion des enfants du club, pour qu'ils se connaissent, pour que les petits patinent avec les plus grands, pour que des loisirs patinent avec des compétiteurs.
Rien ne l'y obligeait, explique-t-il. Les clubs sportifs n'ont pas reçu de directives particulières, mais la raison l'a emporté sur la magie de Noël.
C'est un moment où tout le monde se regroupe sur la glace avec le port du masque, bien entendu, mais pas que, parce qu'il y a des tout petits qui n'ont pas forcément le masque et qui vont à l'école, donc qui peuvent être porteurs. Enfin voilà, on pense en priorité effectivement au risque vis-à-vis de leur famille à quelques jours des fêtes de Noël.
Une responsabilité vis-à-vis des familles, un enjeu sportif également pour le club.
Un certain nombre de compétiteurs ont déjà commencé leur saison en patinage artistique, en patinage synchronisé, ça va être incessamment sous peu dès la rentrée après les fêtes. Donc effectivement, on privilégie cet aspect-là.
Et le conseil donné par le club à tous ces patineurs, c'est de passer un bon Noël tout en faisant bien attention à respecter les gestes barrières, ce qui semble être le cas, puisqu'à ce jour, l'Axel n'a enregistré aucun cas de Covid.
Reportage France Bleu Normandie, Nolwenn Lejeune, pas de coup de pouce sous le sapin. La ministre du Travail l'a confirmé ce matin, le gouvernement n'ira pas au-delà de l'augmentation automatique du salaire minimum, 14 euros brut par mois à partir de janvier. Elisabeth Borne qui sera dans le téléphone sonne juste après ce journal. Il y aura bientôt une nouvelle tête à l'autorité de la concurrence. L'Élysée propose l'économiste Benoît Cœuré. Le Parlement doit encore se prononcer. Nomination sensible à 4 mois de la présidentielle, d'autant plus qu'il y a des dossiers chauds sur la table comme la fusion entre TF1 et M6. Sur TF1 justement, hier soir, Emmanuel Macron n'a attiré que 4 200 000 téléspectateurs, deux fois moins que lors de sa dernière allocution. Plus de 2 heures d'interview critiquée par l'opposition aujourd'hui. Un exercice d'autosatisfaction narcissique pour les LR. On n'a pas entendu parler de climat, lui reproche Yannick Jadot. Et pour Éric Zemmour, Emmanuel Macron parle de lui et pas de la France. Le candidat d'extrême droite était sur France Inter ce matin. Il a rappelé son ambition, mettre l'immigration à zéro. Et il s'est indigné d'une décision de 2018 du Conseil constitutionnel. Voici ses mots.
Il est sorti du rôle que lui avait été dévolu par Michel Debré et le général de Gaulle. Aujourd'hui, il impose son idéologie. Je vous donne un seul exemple. Au nom du principe de fraternité, liberté, égalité, fraternité, il a interdit au gouvernement de sanctionner un passeur de clandestins. Je trouve ça scandaleux.
Le Conseil constitutionnel a-t-il interdit de sanctionner un passeur de migrants ? Réponse avec Maxence Lambrec.
Les véritables passeurs de clandestins restent condamnés, sanctionnés. Ceux qui gagnent leur vie sur le dos des migrants, ceux qui participent à l'entrée illégale sur le territoire, ne bénéficient pas de cette décision du Conseil constitutionnel à laquelle il fait référence. Décision du 6 juillet 2018 en faveur de Cédric Herrou, qu'Éric Zemmour considère donc comme un passeur. Ce paysan militant de la vallée de la Roya avait il y a 5 ans convoyé des migrants venus d'Italie organiser un camp d'accueil. La justice l'a d'abord condamné, il s'est tourné vers les sages de la rue de Montpensier et les sages lui ont donné raison, reconnaissant, je cite, « la liberté d'aider autrui dans un but humanitaire sans considération de la régularité de son séjour sur le territoire national ». Comprenez, il ne peut y avoir de délit de solidarité. L'aide gratuite, sans contrepartie, ne peut être sanctionnée et le conseil ajoute « l'aide apportée à l'étranger pour sa circulation n'a pas nécessairement pour conséquence de faire naître une situation illicite ». Autrement dit, emmener des migrants dans sa voiture, oui, leur faire passer la frontière, non. D'une formule, Éric Zemmour travestit cette décision pour alimenter sa croisade contre le Conseil constitutionnel.
Le contexte et les explications signées Maxence Lambrec, c'est aussi un article à lire en longueur sur franceinter.fr.
Le nucléaire est un autre sujet de la campagne présidentielle à venir. Eh bien, il y a du neuf avec l'EPR.
Après 12 ans de retard, l'EPR construit dans le sud-ouest de la Finlande va pouvoir démarrer. L'autorité nucléaire finlandaise vient de donner son feu vert. L'exploitant de la centrale espère une première production d'électricité fin janvier. Bonsoir Delphine Simon.
Bonsoir.
On n'y croyait presque plus tant le chantier avait accumulé retard et déboires.
Ouais, déboires financiers en particulier qui font grimper la facture de 3 à 10 milliards d'euros. Cet EPR finlandais s'est devenu un véritable chemin de croix, notamment pour le consortium Areva Siemens. L'Allemand s'en est d'ailleurs retiré. Areva a dû payer 1 milliard d'euros de pénalités de retard, ce qui a contraint l'an passé l'État à mettre la main au portefeuille pour éviter la faillite. Pourtant, à l'origine, cet EPR, c'était la vitrine du savoir-faire franco-allemand dans le nucléaire. Un réacteur nouvelle génération, super puissant, prévu pour durer 60 ans. Alors ce feu vert aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle, observent certains acteurs de la filière EPR. Des tests à faible puissance vont démarrer, la réaction en chaîne commencée. Objectif, assurer d'ici l'été 15% de l'approvisionnement électrique de la Finlande.
Et en France, Delphine, c'est pour quand cette EPR ?
EDF promet du courant pour 2023, certains en doutent. À après avoir lui aussi accumulé les retards et les dépassements financiers à Flamanville. Deux autres EPR sont en chantier en Angleterre, mais les seuls qui fonctionnent vraiment dans le monde se trouvent à Taishan en Chine. L'un d'eux est d'ailleurs à l'arrêt depuis juin dernier. Sans attendre, Emmanuel Macron vient d'annoncer le lancement d'un nouveau programme nucléaire. Six nouveaux EPR seraient à l'étude, mais les avis déjà divergent sur leur coût. Un écart de 15 milliards d'euros entre EDF et le ministère de la Transition énergétique, selon une note publiée par le média en ligne Contexte.
Delphine Simon, spécialiste des questions d'énergie sur France Inter, et la production d'électricité en France, par ailleurs, subit quelques imprévus et ce n'est pas forcément de bon augure s'il fait très froid dans les semaines qui viennent. Plusieurs réacteurs sont à l'arrêt, ceux de la centrale de Chaux dans les Ardennes pour éviter et pour vérifier d'éventuels défauts, tout comme ceux de la centrale de Civaux dans la Vienne. Ça a secoué EDF cet après-midi au point que la cotation a été suspendue alors que le titre chutait de plus 15%. Pour que la concurrence soit plus équitable entre les libraires et les géants de la vente en ligne, le Parlement vient donc de voter une loi qui instaure un prix plancher pour les livraisons de livres. Elle vise avant tout Amazon, accusé d'avoir contourné l'esprit de la loi en facturant à 0,1 centime d'euros la livraison. Et c'est une victoire pour Anne Martel, présidente du syndicat de la librairie française.
Actuellement, vous avez d'un côté Amazon qui va facturer 1 centime d'euros. De l'autre côté, vous avez des libraires qui, pour envoyer leurs livres, vont payer entre 7 et 8 euros. De facto, si vous voulez, il y a une concurrence qui est totalement déloyale. C'est un contournement de la loi sur le prix unique du livre. Le vote de ce texte commence à rétablir l'équilibre. On est d'accord sur le principe d'un plancher de facturation de frais d'envoi pour tout envoi de livres. Après, maintenant, le combat, ça va être de fixer le tarif. Il ne faut pas que ce soit le plus bas possible si on veut être dans l'esprit de cette loi d'Arcos qui est pour l'équité des acteurs du livre.
Quel serait un prix raisonnable selon vous ?
Il faudrait que ce prix soit fixé entre 3 et 5 euros.
Anne Martel avec Ilana Mor-Youssef. Après les incidents en cascade dans et autour des stades de foot, le gouvernement serre la vis. Interruption systématique et définitive des matchs si un joueur ou un arbitre est blessé par un projectile. La décision d'arrêter un match sera prise en une demi-heure maximum. Ce sont des chaînes exceptionnelles, plantées il y a 4 fois 100 ans, qui ont été découpées aujourd'hui dans la bien nommée Syrie des géants. Étape symbolique de la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris à Cran, dans le sud de Mayenne. Ces arbres vont servir la restauration de la célèbre flèche, méticuleusement sciée devant les caméras et les photographes du monde entier. Et Martin Cotta de France Bleu Mayenne y était aussi.
Une scie automatisée découpe les deux côtés d'un morceau de chêne vraiment pas comme les autres, sur une vingtaine de mètres de longueur, dans un sacré vacarme. Trois ouvriers à la tâche, dans un hangar, ce chêne servira de tabouret pour accueillir la flèche de Notre-Dame. Opération supervisée par Michael Renault, le patron de la Syrie des géants.
Là, on a les 8 pièces principales du tabouret, et puis il y en a encore une quarantaine qui va arriver, du coup, des pièces principales de la flèche. Derrière, donc on est entre 40 et 50 pièces. Il y a un peu de pression, il y a de l'émotion.
Théo et Charlie sont deux jeunes menuisiers conscients, modestement, de participer à l'histoire de France.
C'est toujours bien de pouvoir travailler pour des grands chantiers comme ça, pour des monuments historiques. Ça donne envie de travailler, d'en faire plus.
Ça permet de refaire les anciennes charpentes dans le temps avant, toucher avec les mains.
8 chaînes vont servir à la restauration du tabouret de la flèche, installation prévue en 2023. Le général d'armée Georges Lain est le président de l'établissement public chargé de la restauration de Notre-Dame de Paris.
C'est un savoir-faire qui s'est construit au cours des siècles, qui est le résultat de notre histoire et du patrimoine exceptionnel que nous avons su construire et conserver dans notre pays.
Près de 45 scieries comme celle de Cran dans le sud Mayenne vont découper les 1000 chaînes nécessaires à la restauration de la flèche de la cathédrale parisienne.
Un reportage signé Martin Cotta de France Bleu Mayenne. Et puis le boss plus fort que Bob Dylan, selon plusieurs médias américains. Bruce Springsteen aurait vendu ses droits musicaux à Sony pour un demi-milliard de dollars, montant record, on peut le dire, pour celui qui a quand même écoulé pas moins de 150 millions de disques dans le monde. Born in the USA, River, parmi les titres célébrissimes de la rockstar. Oui. Et ses catalogues de tubes, donc, avec l'essor du streaming, on ne peut que le constater, suscitent des appétits grandissants.
Youngstown, ils sont bien contents. Tiens, de savoir qu'ils viennent gagner un milliard et demi. Merci beaucoup.
500 millions, c'est 500 millions de dollars. Un demi-milliard.
Ah, oh bah, finalement, ça va, alors. Merci beaucoup, Hélène. Nous, on reste ensemble, bien sûr, dans dans un tout petit instant, c'est le téléphone sonne avec la ministre du Travail, Elisabeth Borne, qui est avec nous. Il y a déjà beaucoup de questions et c'est tant mieux, continuer à nous appeler. On jette un œil sur le ciel tout de suite.
La météo avec les œufs de Loué. Savourez les œufs fermiers de Loué, de poules élevées en liberté. Loué, libre par nature.
Et Sébastien Léas, la grisaille va se déchirer un peu.
Oui, à l'image de ce qui s'est passé cet après-midi sur le nord-est, hein, vous l'avez peut-être pas vu en Île-de-France, mais l'humidité plaquée dans les basses couches de l'atmosphère commence à s'évaporer. Alors demain matin, il faudra encore composer avec des grisailles étendues sur une large moitié nord, dans les plaines du sud-ouest et également entre dans les vallées d'Auvergne-Rhône-Alpes, alors que le soleil brillera généreusement sur l'ensemble du relief et les régions de la Méditerranée. Le soleil va progressivement gagner du terrain, se propageant vers le midi toulousain, le bassin aquitain, les Charentes, mais aussi les côtes sud de la Bretagne. La couche de nuages bas va un peu se morceler l'après-midi, verra apparaître des éclaircies entre l'Alsace, la Lorraine, le Centre-Est et les Pays de la Loire. En revanche, entre la Touraine, le Loiret, les Ardennes, les Hauts-de-France et la Normandie, en passant par la région parisienne, le ciel restera recouvert d'une vaste nappe nuageuse et les trouées seront rares, voire fugaces.
Et sinon, température stationnaire avec un peu de vent en prime.
Oui, on attend encore des gelées la nuit prochaine. Moins 1 degré au lever du jour à Saint-Étienne, Toulouse et Annecy, mais aussi à Alès et à Issoudun dans l'Indre. Il fera aussi plutôt frais ailleurs au lever du jour, notamment là où le ciel nocturne sera dégagé. Pour les maximales, prévoyez 4 degrés à Lyon, 8 degrés à Dijon et Strasbourg, 10 degrés pour Calais, Paris, Caen, Lorient ou Angoulême, 12 degrés à Toulouse. On ira jusqu'à 13 degrés à Montpellier et Bayonne, 14 degrés à Marseille, 16 degrés à Calvi et 17 degrés à Saint-Tropez et Bagnères-de-Bigorre. Et puis le vent sera aussi sensible demain près de la Manche et de l'Atlantique. Et également le vent d'autant qui va se lever dans son domaine.
Et bien voilà, tout est dit. Merci beaucoup Sébastien Léas de Météo France.